Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique en tandem de la librairie des étudiants. Quelles noces écriveriez-vous dans la fougue de votre jeunesse ? Nous ouvrons aujourd'hui un livre d'Albert Camus intitulé « Noces » au pluriel, un livre publié à faible tirage en 1938, puis aux éditions Edmond Charlot en 1939 en Algérie, avant d'arriver chez nous 11 ans plus tard, en 1950. Ce texte intégrera la collection blanche des éditions Gallimard, avant de connaître une nouvelle augmentation avec une republication commune avec l'été, un autre texte d'Albert Camus en 1959. Pour en parler aujourd'hui, je reçois une étudiante de l'université Grenoble-Alpes. Bonjour Marie.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous aujourd'hui à ce micro.
Merci à toi.
Alors petite question Marie, quel est votre... Parce que je vous ai présenté comme étudiante, mais qu'est-ce que vous étudiez actuellement ?
Alors je suis en master de lettres modernes,
ouais.
En recherche critique et création.
Ça se passe bien ?
Ça se passe très bien, merci.
Bientôt la deuxième année ?
Bientôt la deuxième.
Est-ce qu'il y a Camus au programme ?
Non, malheureusement.
Malheureusement.
Non, on est plutôt dans le 19e. C'est très bien aussi. Mais c'est bien qu'il faut, quelques petites escapades dans les siècles. Voilà. Le 20e aujourd'hui.
Le 20e aujourd'hui. Vous m'avez donné rendez-vous au Café de France à Grenoble. Pourquoi avoir choisi cet endroit précisément ?
Eh bien, Thomas, parce que c'était le lieu de réunion des résistants durant la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Et nous savons que Camus a occupé un rôle important, en tout cas dans la résistance intellectuelle. Donc voilà, il a eu ce rôle très actif, je pense à Lettre à un ami allemand, par exemple. Donc j'ai trouvé ça sympa de se réunir aujourd'hui au Café de France.
Donc Camus jusqu'au bout, hein ?
Camus jusqu'au bout.
Même jusqu'au lieu. Le livre qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui est un des tout premiers, écrit par Albert Camus dans sa jeunesse. Un livre dans lequel il rend hommage aux côtes de l'Algérie, à ses paysages, à son environnement. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'il y a de magique à la lecture des lignes, des noces ?
Je dirais qu'on ressent une très très grande jeunesse dans l'écriture de Camus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup lu ces grands titres comme L'étranger ou La peste
oui.
À l'école. Et Noce n'est vraiment pas très connu. Et on ressent une écriture qui est en train de se construire, un écrivain qui est en train de se faire. Et c'est assez touchant de le lire au même âge que lui quand il a écrit ce texte.
Oui, parce qu'il avait tout juste 23 ans au moment où il écrit ses premiers textes.
C'est ça.
Qui sont des essais. Il trace dans ses textes, entre les lignes, ce qui va faire sa future production, sa future œuvre littéraire. Quelle est la thèse de ces textes de Noce ?
Alors on est, comme vous avez dit, sur 4 essais autobiographiques qui vont rendre compte de cette jeunesse de Camus, qu'il a passée, nous le savons, en Afrique du Nord, dans son Algérie natale. On va être sur une écriture de contemplation, de célébration, de la nature, des hommes, et de cette correspondance qui va s'établir entre les deux. Donc ces contemplations, elles vont inspirer aux jeunes écrivains des réflexions plus existentielles, plus flottantes, à laquelle l'écriture de l'essai colle bien. On y voit un Camus qui est habité par une ivresse qui survient quand on commence tout, quand on a ce jeune âge, et qui dans sa soif de vivre, il s'arrête par moments pour se poser des questions, le genre de questions qu'on peut se poser quand on a 20 ans.
C'est quoi les genres de questions qu'on se pose quand on a 20 ans, Marie ?
Je dirais que peut-être il va vivre tout ce qui est relatif à l'amour de façon très intense. L'amour au sens sentimental, amoureux, mais aussi l'amour du paysage dans lequel il a grandi, de ses locaux qu'il va côtoyer. Il va se poser aussi des questions sur sa place dans le monde. On peut dire que 20 ans, c'est un âge de carrefour entre différents choix et avec la perspective aussi de la mort qui est assez présente, qui, avec l'absurde qui pointe le bout de son nez dans l'écriture de Camus.
Qui sera sa grande philosophie.
C'est ça. Voilà, l'amour, la mort, sa place dans le monde. Que des choses très existentielles et en même temps très imprégnées dans le paysage et dans le réel.
Dans son lieu de naissance, vous l'avez dit, est-ce que finalement Noce ne serait pas... Alors, je vais pousser une métaphore, attention, je me lance. Est-ce que ça ne serait pas ces noces envers son enfance, envers ses racines, qu'il ne quittera finalement jamais ? Il aura toujours un regard pour cette Algérie natale. Ce Maghreb, cette Afrique du Nord qui l'a toujours porté, que ce soit même lors du discours qu'il va prononcer en Suède pour son prix Nobel, est-ce que finalement ces noces, métaphoriquement, c'est pas aussi ses fiançailles avec sa propre terre.
Oui, c'est une bonne vision. Il y a quelque chose qui le scelle au paysage et à ses coutumes de son enfance qui sont assez déterminantes en fait dans la construction de soi et dans ce commencement. Effectivement, il y a une sorte de genèse et en même temps de mariage scellé, effectivement, avec cette région.
Nos, ce sont quatre textes, quatre essais, quatre tableaux, on peut aussi les appeler comme ça. Nos à Tipassa, le vent à Djemila, l'été à Alger et le désert. Comment se construit ces fameuses noces ?
Au niveau de la disposition du recueil, on va suivre un itinéraire entre ciel et mer, les côtes méditerranéennes, les terres d'Algérie, en passant par une escale en Toscane. Voilà. Donc, pour le titre, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut parler noces d'une célébration du monde et de l'énergie fougueuse, vitale de la jeunesse, de la certaine béatitude qu'on peut ressentir face à l'ampleur de ce monde qui se présente à nous et dont on n'a encore rien fait. Du champ des possibles, permis par ce commencement.
Est-ce que ça vous a donné envie de voyager jusqu'en Algérie pour partir sur les traces de Camus ?
Ah ben totalement, mais je pense que la lecture c'est déjà un premier voyage. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà mis les pieds là-bas en lisant, relisant le livre chaque été.
Hein. Alors du coup, est-ce que vous appréhendez peut-être le fait de découvrir ces paysages ? Vous allez vous laisser surprendre par ce que vous allez voir ?
Ah ben je vais me laisser surprendre, je vais suivre sa parole, je pense.
Ouais. L'énergie vagabonde par Albert Camus, pourquoi pas. C'est une belle définition aussi. On a parlé donc de ces lieux, de ce titre. Mm-hmm. Quel serait alors peut-être l'enjeu de ces quatre essais ? Parce qu'on a donc quatre noces différentes, dans des endroits différents, on vient de le dire. Mm-hmm. Pourquoi, finalement ?
Différentes célébrations. Pour cet enjeu du recueil, on va avoir la manière dont ces paysages vont venir influencer l'expérience du monde de Camus et aussi déterminer sa manière d'appréhender le monde, les gens qu'il y rencontre, qu'il observe. Et c'est cette diversité des contemplations qui invite à chaque fois à différents sentiments et à différents motifs de réflexion. Par exemple, le désert, ça peut susciter par exemple des images plutôt liées à la solitude. Tandis que Alger, ça va être le monde qui fourmille et qui grouille dans les rues, quoi.
Oui, puis en plus, il regarde aussi une partie de la société, mais on aura l'occasion d'y revenir. Vous parlez aussi, parce qu'on en a parlé un peu avant, on va le dire. Vous parlez de chronique.
Oui.
Pour qualifier ces essais. Déjà, quelle différence faites-vous entre ces deux termes littéraires ?
C'est nous la chronique.
C'est nous la chronique,
ouais, c'est
d'accord.
La chronique.
Oui, ça c'est vrai, effectivement. Mais on va parler de la chronique telle que vous l'entendez pour la forme littéraire que vous attribuez à Camus qui lui parle d'essai. Pourquoi d'abord ces deux différences ? Et deuxième question, quel en serait l'intérêt ?
Alors ce qui est intéressant avec le terme de chronique, c'est le côté journalistique, reportage. Et c'est vrai qu'on a une écriture qui relève assez du reportage. On imagine très bien un Camus qui va avec son carnet arpenter les rues d'Alger et gribouiller quelque chose. On sait qu'il y a des moments où il va décrire des scènes au bar, où il sirote des limonades sous la chaleur.
Ça pourrait être un peu nous aujourd'hui finalement.
C'est totalement nous au Café de France. Oui, il y a ce côté journalistique pour la chronique qui s'y prête vraiment bien. Une écriture du reportage et de la documentation qui est assez précieuse et qui donne cette impression d'être déjà allé en Algérie en fait, en lisant Camus.
Donc plus que l'essai, parce que finalement, si on reprend la racine de l'essai tel que le pensait Montaigne, c'était exercer sa pensée sur un sujet qui est déjà défini et le dépasser. Moi, j'ai eu beau chercher en relisant Nos, qu'est-ce qui dépasserait Camus pour parler d'essai ? Si ce n'est d'écrire un paysage qui lui est cher. Peut-être une réflexion quand il est à Alger, sur la société, sur la jeunesse.
Je pense que l'écriture de l'essai se prête vraiment bien avec la notion de carrefour de son extrême jeunesse, parce que dans l'essai, il y a la plasticité de l'écriture qui correspond bien à l'inconstance qu'on peut avoir dans la jeunesse. Donc on n'est pas dans une forme fixe, on accepte d'être dans le flou, on accepte d'être dans l'errance, dans une écriture qui flâne. Et en même temps, avec l'essai, il y a une dimension d'inachevé et le fait d'accepter de ne pas avoir de réponse. Et c'est plutôt, ouais, l'intérêt il est plutôt dans le fait de se poser des questions quand on a 20 ans et d'accepter qu'on n'ait pas ses, ses réponses.
Donc effectivement, on retombe sur la chronique, même si on comprend bien que c'est l'essai chronique, on va dire. Quel en serait du coup l'intérêt de prendre une forme de chronique ?
Je pense que dans cette chronique, il pourrait être intéressant de constater la manière dont cet environnement va venir influencer les perceptions et l'expérience du jeune Camus. Il va être aussi intéressant de se faire témoin de cette communion, de ses noces avec sa terre natale et aussi de la manière dont l'écrivain va entrer en correspondance avec elle, la manière dont il va questionner, célébrer tout ce monde par le biais de l'écriture. Donc de l'essai, de la chronique, on y perçoit très distinctement tous les mouvements sensibles que le paysage vient agiter et éveiller à l'intérieur de lui. Et voilà, donc ces mouvements, nous vous proposons d'en retracer l'itinéraire.
Des mouvements du sensible, du voyage, du jeune journaliste qu'a été Camus à tout juste 23 ans. Moi, ça m'a quand même fait penser à plusieurs choses, mais surtout dans l'écriture, dans cette image, ce déploiement de métaphores immense. Je fais souvent référence à ce texte parce que ça a été un texte marquant pour moi. C'est Le Chant du Monde de Jean Giono. Justement, il nous décrit ces Alpes de Haute-Provence très foisonnantes, avec la nature au milieu. La toute première partie de Noce, ce tout premier essai, Noce à Tipassa, pour moi, c'était tout à fait ça. On commence, on est dans la nature, on est plongé. Et voilà. On va plonger dans un autre voyage. On continue, bien sûr, de parler d'Albert Camus, Noce, avec Marie, juste après Tiff et son titre Inata en live session.
T'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone, je ne trouve pas ma Inata. J'appelle cette fille la Miami, rien ne sait comment c'est à moi. Une heure du mat, m'attend dans le sortilège. Raptage des passeports inertes. La vie c'est sortilège, cerveau en ébullition, cœur qui bande. Moi, j'sais même plus l'heure qu'il est. Quand j'consomme la liqueur, claqueur, l'hiver s'orchestre. À chaque fois que j'fume de l'orchidée jusqu'au corbillard, j'pense qu'à Orbi. Personne paye pour le flot to feed. I still have no fuck to give. Inata, parle pas chinois, j'peux la comprendre sans sous-titre. Personne paye pour le flot to feed. I still have no fuck to give. Inata, parle pas chinois, j'peux la comprendre sans sous-titre. J'entends ta petite voix qui s'envole. J'entends ta petite voix qui s'envole. Va vers le point rouge sur la main. Va vers le point rouge sur la main. Tellement de chétana qui s'envole. Tellement de chétana qui s'envole. J'ai dû dire ciao à madame. J'ai dû dire ciao à madame. Elle m'appelle, elle me dit je me sens si seul. Pourquoi tu me repostes pas? J't'ai vu sur Insta avec une poste boîte. Je sais que ton sourire sert de cache-misère. Si j'pars me ghoste pas. Où je crie triste à cause de toi. Ah. Elle dort à côté, je dors pas, j'ai la mif en tête. Mes potes m'appellent, pas trap dans une discothèque. Je pense à arrêter ça, mais le vis au père. Je parle d'arrêter la fume avec une spliff au bec. J'ai fait confiance, j'ai regretté mes remords. Et tellement je suis busy à faire l'or. Je reste pas accroché à mes remords. Au bord de la plage, j'ai rentré à Merlot. Et personne paye pour un flot to fix. I still have no fuck to give. Inata, parle pas chinois, j'peux la comprendre sans sous-titre. Personne paye pour flotte to fit. I still have no fuck to give. Inata, parle pas chinois. J'entends ta petite voix qui s'envole. J'entends ta petite voix qui s'envole. Va vers le point rouge sur la main. Va vers le point rouge sur la main. Tellement de chétana qui s'envole.
Neighborhood. C'était Inata, de l'artiste Tiff, sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8, un titre en live session que vous pouvez bien sûr retrouver sur les plateformes de streaming depuis 2023. Marie, je me tourne vers vous. Mm-hmm. Pourquoi le choix d'un tel titre ?
J'ai trouvé ça bien de mettre, voilà, d'écouter Tiff, parce qu'on est sur un rappeur qui a beaucoup d'expérience, mais qui est très émergent, en tout cas en France, comme vous dites, depuis 2023. Ça va être un rappeur qui apporte un souffle nouveau dans ce champ musical en France, en mélangeant rap, sonorité plus traditionnelle qu'il emprunte à l'Afrique du Nord et autotune. Donc je trouve ça très touchant, et c'est aussi une écriture de la célébration.
Merci en tout cas pour cette belle découverte que vous nous partagez. Puis évidemment, on vous invite à aller écouter les autres titres de Tiff, ce rappeur. Donc on revient sur notre texte du jour, Noce, d'Albert Camus, que vous pouvez bien sûr retrouver en format poche aux éditions Folio dans toutes nos belles librairies indépendantes. Ce livre va se découper en 4 textes, on l'a dit, 4 parties, 4 essais, 4 chroniques, qui sont une continuité, comme parfois aussi autant de différences. Nous ouvrons le livre avec Les Noces à Tipassa, un essai qui est luxuriant, je trouve. Quel a été, vous, votre sentiment, Marie, dès que vous avez commencé ou recommencé à lire cet essai-là ?
Déjà, je dirais que ça m'a beaucoup touchée, parce que la première fois que je l'ai lu, je devais avoir tout juste 20 ans.
Donc avant-hier ?
Avant-hier. Oui, j'avais voilà, à peu près le même âge que Camus au moment de l'écriture, et on peut dire que c'est une écriture de l'expérience qui m'a beaucoup touchée, avec tout ce fond méditerranéen duquel je suis aussi originaire, avec la Provence. Donc on va dire que dans le bassin méditerranéen, il y avait quelques échos et quelques rencontres bienvenues.
C'était facile pour vous de vous identifier finalement à ce narrateur ?
Oui, plutôt, oui. On va dire aussi que le soleil grenoblois n'est pas
est propice.
Des plus réchauffants.
Il n'est pas des plus réchauffants ?
Non.
Quand même.
On est content de le retrouver, mais ce n'est pas le soleil méditerranéen.
Oui. C'est un soleil de la montagne que nous avons à Grenoble.
Voilà.
Alors c'est Noce à Tipassa, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, nous dévoiler peut-être ?
Alors pour ce premier tableau que nous propose Camus, on va dire qu'il commence fort avec l'idée d'une écriture qui décrit la nature très luxuriante, très abondante de l'Algérie. On est tout de suite plongé dans cette chaleur pesante, avec le motif du soleil qui est assez cher à ses yeux, et qui va faire partie intégrante du paysage en fait. Un peu comme il pourrait être un acteur à part entière dans L'Étranger, par exemple, sur la plage.
Il faudra lire L'Étranger, évidemment, pour après découvrir ces références.
Et donc dans Noce à Tipassa, voilà, on va être sur une invitation, une initiation à la fusion, à cette fusion qui est un mariage entre la nature sauvage, l'appréhension totale de celle-ci. Cette nature va susciter chez le jeune Camus des sentiments les plus purs, les plus profonds, le tenir en éveil, en fait. C'est ce cercle virtueux de l'ivresse entre rêverie existentielle et contemplation, jusqu'à la fusion de ces deux-là, mm-hmm, par le biais de l'écriture.
Ouais.
Et on voit que la manière dont l'auteur appréhende le monde au travers de ses yeux et au travers d'une écriture qui est assez poétique pour décrire ces paysages, la beauté en tout cas de ces paysages, tout l'enjeu esthétique. Ce cadre,
floral,
en tout cas, dans lequel il évolue et qu'il tente de peindre. Toute cette beauté, toute cette esthétique qui va être décrite dans Noce à Tipassa, va décrire et entrer en contraste avec le caractère farouche, hostile, aride de la ville, et en même temps de l'abondante richesse qu'elle va inspirer sur le plan sensuel et réflexif.
Tout ça, bien sûr, à travers des métaphores, des allusions, des descriptions. Moi, ce qui m'a aussi marqué dans ce premier essai, c'est que Camus parle des dieux, mais pour autant, il les rejette complètement. Il dit qu'ils ne servent pas aux hommes, ni dans cette période, ni dans ce lieu. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, face à un paysage, il n'y a ni dieu ni loi.
Absolument.
Et aussi, par ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est qu'il tente de définir la gloire. Il dit que la gloire, c'est aimer sans mesure. Pourquoi pas? Et puis, il y a un autre passage que je vais vous lire. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici. Une vie à goût de pierre chaude, pleine de soupirs, de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La brise est fraîche et le ciel est bleu. J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit, il n'y a pas de quoi être fier. S'il y a de quoi, ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Tout, ici, me laisse intact. Je n'abandonne rien de moi-même, je ne revais aucun masque. Il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut mieux bien tout leur savoir-vivre. S'abandonner à vivre, c'est ce que nous devrions peut-être tous faire en étant jeunes.
Oui, absolument.
Parce que Camus ira même jusqu'à dire « Une seule journée à Tipassa, c'est vivre intensément ». Alors finalement, est-ce que à 20 ans, 23 ans, est-ce que c'est pas aussi le but de notre vie, c'est tout plaquer pendant peut-être un certain temps, choisir ou retrouver un paysage que l'on aime de notre enfance, et on se laisse aller?
C'est vrai qu'il y a une forme d'invitation. Il va défendre une philosophie de l'inconstance et de la non-tempérance qui, à l'image de ce climat très aride, très exclusif, par son hostilité, il ne faut pas, à 20 ans, préférer des climats tempérés et que ce n'est pas un âge pour la tempérance.
Donc finalement, un climat aride ou difficile nous forgerait nous-mêmes.
C'est ça. C'est ça.
Donc peut-être que si on écoute bien, on entend le Mistral gronder entre les lignes de Camus. Ça, c'est pour le premier tableau. Il y a le deuxième, le vent à Djémila, qui nous reflète plus la solitude. Une ville morte. Qu'est-ce que ça apporte dans ces tableaux différents que l'on explore ensemble?
Eh ben, on va dire que on explore de façon plus intense, plus profonde, cette aridité. Au-delà de la beauté qu'elle inspire, il y a un peu ce revers de médaille avec le vent qui souffle à Djémila, qui peut rappeler, comme tu dis, le Mistral provençal. On a cette ville morte de Djémila qui est décrite et qui va servir de support, de socle à Camus pour faire des développements et en même temps refléter la solitude que ressent l'homme. Et ça fait écho avec le passage que vous avez lu tout à l'heure à propos du côté religieux où les dieux ne sont pas faits pour les hommes et ne servent à rien aux hommes. On a vraiment l'absurde qui pointe le bout de son nez, tout comme ici à Djémila, où on retrouve l'homme vraiment seul, quoi, avec un dieu absent. Cette solitude et cette souffrance, quelque part, elle va avoir une dimension cathartique dans l'aridité du milieu, du climat, et elle inspire au jeune Camus des réflexions, et notamment sur la mort. Voilà.
Avec le temps qui passe, effectivement, je vais relire un nouveau passage à la page 27. Que signifie le progrès du cœur? Si je refuse obstinément tous les plus tard du monde, c'est qu'il s'agit aussi bien de ne pas renoncer à ma richesse présente. Il ne me plaît pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie. Elle est pour moi une porte fermée. Je ne dis pas que c'est un pas qu'il faut franchir, mais que c'est une aventure horrible et sale. Tout ce qu'on me propose, c'est force de décharger l'homme du poids de sa propre vie. Il est quand même vachement conscient qu'au bout du voyage, il n'y a plus grand-chose à 23 ans, Albert Camus. Il est presque...
Totalement.
Il est dans un grand spleen à ce moment-là. Et ça rejoint finalement ce que vous disiez sur cette ville seule, morte. Camus questionne là-dessus. Est-ce que le sujet de la mort, c'est quelque chose que l'on ne sait pas encore débattre à 23 ans?
C'est vrai que vous avez parlé de spleen. C'est vrai qu'il y a un côté un peu lamentation. Mais en même temps, on sent que Camus l'a déjà accepté. Donc peut-être que la notion de débat, elle n'a pas trop sa place. Et que...
Du fatalisme.
Oui, mais dans le fatalisme, t'as une forme de pessimisme, alors que justement, Camus, il est plutôt... il n'y a plus rien au bout du voyage, il faut célébrer les vivants.
Oui, mais il est presque finalement dans l'urgence du temps.
Oui.
C'est-à-dire, parce que mon temps est compté, je ne sais pas quand ça s'arrête, il faut que je me dépêche de célébrer les vivants.
Complètement d'accord. Et c'est là où on va retrouver cette ivresse dans l'écriture et tout l'émerveillement qui en découle.
Vous parliez de carrefour des 20 ans. Finalement, est-ce que c'est pas ça aussi la leçon de notre vie arrivée à la vingtaine, de se dire que nous sommes au carrefour entre nous, entre l'adolescence et l'âge adulte, au carrefour de nos vies, entre les études et le travail, au carrefour de notre famille aussi, parce que dans la vingtaine, c'est généralement, malheureusement, la période où nos grands-parents partent. Est-ce qu'il répond aussi justement à cette urgence-là?
Oui, il y a vraiment une invitation. Il y a vraiment une invitation à vivre et à célébrer et à s'enivrer, pour reprendre
Reggiani un peu.
Voilà,
aussi.
Le contexte baudelairien.
Enivrez-vous.
Enivrez-vous de soleil et de non-tempérance. Voilà, il y a vraiment ce motif de la non-tempérance. Et du coup, à propos du débat sur la mort, ben, je pense que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que l'écriture de l'essai s'y prête bien, c'est pas quelle réponse on va pouvoir apporter et comment on va pouvoir en débattre, mais voilà, faire le portrait et dépeindre la manière dont on aborde et on comprend la mort quand on a 20 ans et quelles leçons on en tire.
Bon, pour revenir sur un sujet un peu plus léger, allons-nous dire, un peu plus brillant, le troisième essai, le troisième tableau, c'est l'été à Alger.
Oui.
Là, on quitte les beaux paysages. Il y a la mer quand même,
oui,
qui nous est décrite, et Alger également.
Toujours en arrière-plan.
Voilà. Comment il le rédige, ce portrait de la capitale d'Algérie?
Alors, ce qui est intéressant avec Alger, et qui vient un peu arriver en contre-pied avec le vent à Djémila, où l'homme est seul, comme on est dans cette capitale de l'Algérie, on est vraiment en plein dans le fourmillement urbain. Décidément, il y a vraiment un arrière-plan baudelairien dans tout ça.
Un objet d'étude peut-être pour votre master, Marie.
Je vais prendre des notes, je pense. Il est vraiment dans le fourmillement urbain et va donc dans cet été à Alger. Cette même logique de célébration, c'est un tableau qui va faire un focus, voilà, sur les habitants de la capitale, décrire leur quotidien et proposer des développements, des descriptions sur voilà, la philosophie, la manière de vivre méditerranéo-maghrébine.
Une forme de lifestyle, alors?
De lifestyle, voilà.
C'est vrai, et d'ailleurs Camus le dit, hein, il écrit que la ville ne nous apprend rien, la ville ne fait que donner. Et puis, comme on le disait au début de cette chronique en tandem, c'est que Nos trace finalement les grands sillages de la future carrière de Camus. La place du corps et du soleil, on le retrouve parfaitement dans L'étranger, vous l'avez dit également. On le retrouve aussi dans La peste, avec, je rajouterai aussi, l'absence de jouissance, parce qu'ils sont forcément tous enfermés. Et d'ailleurs, même l'incipit de La peste, c'est absolument ça, cette description d'une ville.
À Oran.
Quand on commence La peste, l'incipit, on ne se doute pas un seul instant de ce qui va se passer. Effectivement, les parallèles là-dessus sont très intéressants. Mais ici, dans L'été à Alger des noces d'Albert Camus, il y a aussi la place de la jeunesse, vous l'avez parlé, cette fameuse philosophie de vie, où on comprend très vite que dans cette jeunesse, le bonheur doit être très facile à aborder, sinon il n'y a rien d'autre. Mais il y a aussi une forme de gaspillage, finalement. Est-ce que c'est ça aussi,
oui,
peut-être la jeunesse insouciante? C'est aller très très vite, il faut qu'on soit heureux, et puis le reste, bon, ça attendra.
Alors, oui, vous avez totalement raison.
Ou est-ce que c'est quelque chose qui est trop moderne avec nos yeux d'aujourd'hui? Aussi, peut-être. La question ne s'arrête plus.
Non, en vrai, c'est une très bonne question. Je suis d'accord sur l'idée qu'il y a une invitation au gaspillage, totalement, qui est totalement aussi qui entre en résonance avec le paysage méditerranéen algérien, qui est très luxuriant et qui donne, tout comme ses locaux. Qui va décrire donc, cette manière de vivre. Et on donne, on gaspille, parce qu'on sait qu'à la fin, la vie nous reprend tout, avec le motif de la mort.
On y revient.
Et pour, à propos du bonheur, c'est assez intéressant la manière dont il aborde le bonheur. C'est vrai que ça a une place très très présente dans le recueil. Il y a des moments où il décrit que les passages qu'il avait vécu dans sa vie très intensément, où il se croyait immensément malheureux, il se rend compte qu'il y avait une forme de bonheur a posteriori, et qu'il y a une, comme ça fait partie de l'expérience et de l'existence, il ressent une chance et un bonheur a posteriori dans ce souvenir là
une fois qu'il serait seul, peut-être, où il ressasserait se passer. Finalement, est-ce que ça serait pas un peu comme le quatrième tableau?
C'est vrai.
Dans
c'est vrai
le
qu'il
désert.
Il y a un équilibre avec le motif du désert qui est assez important parce qu'on alterne entre fourmillement et valse urbaine.
Une forme d'opulence, ouais.
C'est ça, totalement. Et en même temps, voilà, une grande solitude intérieure qu'on ressent et qui est aussi due au jeune âge, au carrefour et.
Et l'apprentissage de la vie. Finalement, c'est presque des essais qui sont... ça ressemble tout à fait à des romans d'initiation, comme L'éducation sentimentale de Flaubert.
Oui.
Bien, enfin, je ne dresserai pas forcément des parallèles, parce que figurez-vous que je n'ai pas encore lu L'éducation sentimentale de Flaubert, mais j'ose espérer que cette manière didactique d'apprentissage, en tout cas de ce que j'ai entendu pour Flaubert et ce que j'ai lu pour Camus, on peut retrouver ces parallèles-là.
Peut-être que du côté de Flaubert et du roman d'initiation du 19e, il y a ce désenchantement qui est provoqué par la société, avec la bourgeoisie,
etc. Donc c'est finalement
plus
au contact des autres que par rapport à la solitude.
Qui désenchante, oui, totalement. Et peut-être que le désenchantement chez Camus, il va plutôt être du côté de cette non-religion, mais du coup qui invite à un réenchantement du quotidien.
Ce quotidien donc est décrit comme contemplatif et très profond dans ce quatrième tableau, le quatrième essai qui est le désert.
Oui. Alors dans le désert, il va, on pourrait parler d'une sorte de synthèse un peu de tous ces tableaux et de synthèse qui va être permise par une escale en Toscane où Camus va décrire la ville de Florence et la campagne toscane. On a des très très belles descriptions de l'Arno, etc. Et c'est vraiment très très beau à lire. On retrouve à peu près les mêmes palettes chromatiques que pour Alger. Donc c'est assez intéressant. Et on va y voir des raisonnements très contemplatifs, très profonds. Et c'est là qu'interviennent vraiment les méditations sur Dieu. Voilà. Mais je pense que cette synthèse-là, elle est possible par l'éloignement géographique.
L'éloignement, du coup, pour réfléchir.
Oui.
Dans sa solitude, on l'a dit.
Et on peut souligner le motif biblique aussi du désert et du retranchement. Pour
oui,
faire
l'errance
le point.
À travers le long voyage. Albert Camus écrit même que vivre, c'est témoigner. Ce témoignage se fait en trois parties. Le silence, la flamme, l'immobilité. Est-ce que ce sont aussi les trois grandes parties de notre vie qu'on pourrait découper avec les âges? La jeunesse serait le silence, car on apprend. On est observateur. Une fois qu'on est adulte, on peut embraser le monde, donc la fameuse flamme dont parle Camus. Et puis finalement, l'immobilité, ça serait à la fin de notre vie, la vieillesse.
C'est une interprétation qui est intéressante. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que c'est vraiment un livre sur la jeunesse, pour le coup. Même si on sent qu'il est traversé par toute une expérience qui semble assez vieille dans ses réflexions.
Donc ça voudrait dire qu'une fois que la jeunesse est passée, on devient immobile?
Non.
Quand se termine la jeunesse, qu'on le sache à peu près, qu'on ne soit pas tous inquiets.
Non, mais ça, il est vraiment à ce niveau de carrefour qui a tous les aspects de cette trilogie que vous décrivez, parce qu'il est, il est jeune adulte en fait. Donc on a un mélange de silence, un temps pour l'embrasement, la flamme, et en même temps l'importance de cette immobilité que vous attribuez à la vieillesse. Pour prendre conscience de toute cette expérience-là aussi. Et c'est ça qui est très beau. Il y a aussi le fait qu'on est traversé par toute une expérience à 20 ans. Et peut-être qu'on ne réalise pas totalement toutes les conclusions qu'on peut encore en tirer. Donc, on les pose sur papier. On en fait une chronique.
Et ça fait des beaux livres.
Ça fait des très beaux textes. Et des belles expériences d'écriture.
Et de lecture. Noce, c'est le titre de notre livre du jour, très généralement complété de l'été. Je crois même qu'il est presque indissociable. Un livre signé par Albert Camus, à retrouver en librairie indépendante depuis janvier 1972, en format poche, aux éditions Folio. Il faut le retrouver et le lire pour votre été. Peut-être que ça vous donnera des pistes à vous, la jeunesse. Merci beaucoup, Marie.
Merci à vous, Thomas.
Merci d'être venu à ce micro pour parler ensemble d'Albert Camus. D'un voyage à un autre, il n'y a que quelques jours d'attente. Amis auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous dès mercredi pour notre dernière chronique littéraire de la saison 2024-2025. Déjà, c'est vrai, Nous partirons ensemble sur les routes de l'Amérique du Sud avec un auteur. D'ici là, la capsule auditive de notre entretien du jour en tandem est bien évidemment retrouvée en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, le plus important, je le crois toujours, c'est d'avoir de belles lectures.